La conquête du pain, deuxième partie. Chapitre 2. L'expropriation. Tel est donc le problème que l'histoire a posé devant nous, hommes de la fin du XIXe siècle. Retour à la communauté de tout ce qui lui servira pour se donner le bien-être. Mais ce problème ne saurait être résolu par la voie de la législation. Personne n'y songe. Le pauvre, comme le riche, comprennent que ni les gouvernements actuels, ni ceux qui pourraient surgir d'une révolution politique, ne seraient capables d'en trouver la solution. On sent la nécessité d'une révolution sociale, et les riches comme les pauvres ne se dissimulent pas que cette révolution est proche, qu'elle peut éclater du jour au lendemain. L'évolution s'est accomplie dans les esprits durant le cours de ce dernier demi-siècle, mais comprimée par la minorité, c'est-à-dire par les classes possédantes, et n'ayant pu prendre corps, il faut qu'elle écarte les obstacles par la force et qu'elle se réalise violemment par la révolution. D'où viendra la révolution? Comment s'annoncera-t-elle? Personne ne peut répondre à ces questions. C'est l'inconnu. Mais ceux qui observent et réfléchissent ne s'y trompent pas. Travailleurs et exploiteurs, révolutionnaires et conservateurs, penseurs et gens pratiques, tous sentent qu'elle est à nos portes. Eh bien, qu'est-ce que nous ferons lorsque la révolution aura éclaté? Tous, nous avons tant étudié le côté dramatique des révolutions, et si peu leur œuvre vraiment révolutionnaire, que beaucoup d'entre nous ne voient dans ces grands mouvements que la mise en scène, la lutte des premiers jours, les barricades. Mais cette lutte, cette première escarmouche, est bientôt terminée, et c'est seulement après la défaite des anciens gouvernements que commence l'œuvre réelle de la révolution. Incapables et impuissants, attaqués de tous les côtés, ils sont vite emportés par le souffle de l'insurrection. En quelques jours, la monarchie bourgeoise de 1848 n'était plus. Et lorsqu'un fiacre emmenait Louis-Philippe hors de France, Paris ne se souciait déjà plus de l'ex-roi. En quelques heures, le gouvernement de Thiers disparaissait le 18 mars 1871 et laissait Paris maître de ses destinées. Et pourtant, 1848 et 1871 n'étaient que des insurrections. Devant une révolution populaire,
les gouvernants s'éclipsent
avec une rapidité surprenante. Ils commencent par fuir, sauf à conspirer ailleurs, essayant de se ménager un retour possible. L'ancien gouvernement disparu, l'armée, hésitant devant le flot du soulèvement populaire, n'obéit plus à ses chefs. Ceux-ci d'ailleurs ont aussi déguerpi prudemment. Les bras croisés, la troupe laisse faire ou, la crosse en l'air, elle se joint aux insurgés. La police, les bras ballants, ne sait plus s'il faut taper ou crier « Vive la Commune !» et les sergents de ville rentrent chez eux en attendant le nouveau gouvernement. Les gros bourgeois font leur mal et filent en lieu sûr. Le peuple reste. Voilà comment s'annonce une révolution. Dans plusieurs grandes villes, la Commune, avec un C majuscule, est proclamée. Des milliers d'hommes sont dans les rues et accourent le soir dans les clubs improvisés en se demandant « que faire ?», discutant avec ardeur les affaires publiques. Tout le monde s'y intéresse. Les indifférents de la veille sont peut-être les plus ailés. Partout, beaucoup de bonne volonté, un vif désir d'assurer la victoire. Les grands dévouements se produisent. Le peuple ne demande pas mieux que de marcher de l'avant. Tout cela, c'est beau, c'est sublime. Mais ce n'est pas encore la révolution. Au contraire, c'est maintenant que va commencer la besogne du révolutionnaire. Certainement, il y aura des vengeances assouvies. Des Vatrin et des Thomas paieront leur impopularité. Mais ce ne sera qu'un accident de lutte et non pas la révolution. Les socialistes gouvernementaux, les radicaux, les génies méconnus du journalisme, les orateurs à effet, bourgeois et ex-travailleurs, courront à l'hôtel de ville, au ministère, prendre possession des fauteuils délaissés. Les uns se donneront du galon à cœur joie, ils s'admireront dans les glaces ministérielles et s'étudieront à donner des ordres avec un air de gravité à la hauteur de leur nouvelle position. Il leur faut une ceinture rouge, un képi chamarré et un geste magistral pour imposer à l'ex-camarade de rédaction ou d'atelier. Les autres s'enfouiront dans les paperasses avec la meilleure bonne volonté d'y comprendre quelque chose. Ils rédigeront des lois, ils lanceront des décrets aux phrases sonores que personne n'aura souci d'exécuter, précisément parce qu'on est en révolution. Pour se donner une autorité qu'ils n'ont pas, ils chercheront la sanction des anciennes formes de gouvernement. Ils prendront les noms de gouvernement provisoire, de comité de salut public, de maire, de commandant de l'hôtel de ville, de chef de la sûreté, qu'en sais-je. Élus ou acclamés, ils se rassembleront en parlement ou en conseil de la commune. Là se rencontreront des hommes appartenant à 10, 20 écoles différentes, qui ne sont pas des chapelles personnelles, comme on le dit souvent, mais qui répondent à des manières particulières de concevoir l'étendue, la portée, le devoir de la révolution. Possibilistes, collectivistes, radicaux, jacobins, blanquistes, forcément réunis, perdant leur temps à discuter. Les honnêtes gens, se confondant avec les ambitieux, qui ne rêvent que domination et méprisent la foule dont ils sont sortis. Tous, arrivant avec des idées diamétralement opposées, forcés de conclure des alliances fictives pour constituer des majorités qui ne dureront qu'un jour, se disputant, se traitant les uns les autres de réactionnaires, d'autoritaires, de coquins. Incapables de s'entendre sur aucune mesure sérieuse et entraînés à discutailler sur des bêtises, ne parvenant à mettre au jour que des proclamations ronflantes, tous se prenant au sérieux, tandis que la vraie force du mouvement sera dans la rue. Tout cela peut amuser ceux qui aiment le théâtre, mais encore, ce n'est pas la révolution. Il n'y a rien de fait. Pendant ce temps-là, le peuple souffre. Les usines chôment, les ateliers sont fermés, le commerce ne va pas. Le travailleur ne touche même plus le salaire minime qu'il avait auparavant. Le prix des denrées monte. Avec ce dévouement héroïque qui a toujours caractérisé le peuple et qui va au sublime lors des grandes époques, il patiente. C'est lui qui s'écriait en 1848 « Nous mettons 3 mois de misère au service de la République, pendant que les représentants et les messieurs du nouveau gouvernement, jusqu'au dernier argousin, touchaient régulièrement leur paix. » Le peuple souffre. Avec sa confiance enfantine, avec la bonhomie de la masse
qui croit en ses meneurs,
il attend que là-haut, à la chambre, à l'hôtel de ville, au comité de salut public, on s'occupe de lui. Mais là-haut, on pense à toutes sortes de choses, excepté aux souffrances de la foule. Lorsque la famine ronge la France en 1793 et compromet la Révolution, lorsque le peuple est réduit à la dernière misère, tandis que les Champs-Élysées sont sillonnés de phaétons superbes où des femmes étalent leur parure luxueuse, Robespierre insiste aux Jacobins pour faire discuter son mémoire sur la Constitution anglaise. Lorsque le travailleur souffre, en 1848, de l'arrêt général de l'industrie, le gouvernement provisoire et la Chambre disputaillent sur les pensions militaires et le travail des prisons, sans se demander de quoi vit le peuple pendant cette époque de crise. Et, si l'on doit adresser un reproche à la Commune de Paris, née sous les canons des Prussiens et ne durant que 70 jours, c'est encore de ne pas avoir compris que la révolution communale ne pouvait triompher sans combattants bien nourris et qu'avec 30 sous par jour, on ne saurait à la fois se battre sur les remparts et entretenir sa famille. Le peuple souffre et demande « Que faire pour sortir de l'impasse ?»